temps.
On l'aime, notre Pascal Damo.
Ah oui, puis surtout qu'il y a des éléments dans ma liste qui vont peut-être le faire sursauter.
Tant mieux.
Hein? Yes.
Il faut le choquer.
Yes.
Ah, on est-tu prêt pour un autre derby?
Derby comme avec des patins pis tout, là?
All the way, c'est. Tu veux-tu l'intro, non?
Une intro. Ouais. OK. Bonjour, 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 bon tout, vous êtes à Critique Exquise, je suis en compagnie de Tommy Godette.
C'est moi.
Et Milan Graff.
Bonsoir, bonjour, bon matin, bon après-midi, bonne hystérie globale.
Ouais,
voilà.
Bon matin, bon tout, mon nom est Florence Payette et nous vous accompagnerons pendant tout ce podcast.
Effectivement.
Yes.
Jusqu'au bout.
C'est pas
jusqu'au
faux.
Bout.
C'est pas faux. C'est pas faux.
Et ce podcast est dédié à notre top 10 ou plus de 2019 et jusqu'à 2010.
C'est ça. Bon, on dit
2010-2019.
On dit top 10 souvent parce que c'est comme les 10 dernières années, là, on finit une décennie.
Ouais, c'est
top
10
de la décennie.
Il n'y aurait peut-être pas 10 films, tu sais, il va peut-être en avoir plus.
Moi, j'en ai beaucoup plus que 10.
C'est, ouais,
moi aussi, j'en ai beaucoup plus que 10, c'est un top.
C'est ça.
Un top de la décennie.
Moi, personnellement, je vais parler de trucs que je me souviens que j'ai aimé. C'est comme ça que c'est
dans
ce tour-là.
T'as pris beaucoup de notes, t'es en train de nous dire.
Non. non, je fais pas ça dans la vie, moi. Je prends pas de notes, même au travail. Tout est dans ma tête. Des fois, c'est épuisant.
Ah oui.
Mais c'est le fun parce que ça pratique ma mémoire sur bien des affaires.
Yeah, c'est sûr.
Yeah.
Fait que je peux y aller, là. Il y en a un qui boit de l'eau, puis l'autre me regarde. Fait que... Moi... Moi, en fait, dans l'ordre d'idée de cinéaste, je dirais, ou directeur, Denis Villeneuve, dans les 10 dernières années,
yes.
Il a fait pas mal d'affaires qui sont hot.
Yes.
J'en ai évidemment des préférés dans ce qu'il a fait. Moi, bon, Sicario, Arrival, c'est comme mes deux préférés, mettons. Pour plusieurs raisons différentes. J'aime beaucoup les films d'action. Mm-hmm. Donc, Sicario, ça rentre là-dedans. Et c'est très beau comme film. Hein, Sicario, c'est
solide,
très bien réalisé.
Il est aussi, moi, c'est mon réalisateur préféré des 10 dernières années.
Moi, je pense que c'est pas mal. Je suis pas mal d'accord. Bon, Pascal n'est pas d'accord avec nous, mais il n'est pas là. Fait que.
Ben oui, mais Pascal, il est avec Rex Zaller. Mais...
You lose.
Bon. C'est ça. Fait que, ouais, Sicario, toi, je pense que tu avais aimé plus.
Ah, moi, Blade Runner 2049, c'est mon film préféré des 10 dernières années. C'est mon top.
Ah, c'est un, là.
Ouais, il y a. Je parlerai après des autres, là, mais voilà. Continue, toi.
Oui, fait que c'est ça.
Enemy
moi,
aussi.
J'ai Enemy. Ben, ils sont tous bons, mais si j'en avais, mettons, à en prendre deux dans le lot, j'irais pas mal avec Sicario et Arrival. Je me souviens, j'ai regardé Arrival dans un avion en revenant ou en allant en Australie. Excuse-moi, c'était en Arabie Saoudite. J'allais en Arabie, dans le désert du pétrole et des vidanges. Et... j'étais assis en classe économique premium entre deux businessmen habillés de suit qui regardaient des affaires infectes. Un, c'était genre Jack and Jill, puis l'autre, c'était un autre film de merde. Et moi, j'écoutais Arrival et j'ai presque eu des larmes en fait en regardant le film. Puis je me suis comme retenu pour pas avoir l'air fou. Ça m'a touché, ce film-là. Vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Puis Sicario, il y a beaucoup de monde qui meurt. Puis ça, c'est le fun.
Il y a Benicio del Toro qui
je l'aime
pète
bien,
les plombs. Là.
Ah oui, il est excellent. La scène à la fin du film, là, quand il tue tout le monde autour de la table, là, c'est fantastique. C'est
puis t'as-tu aimé le 2? C'est pas Villeneuve?
Ben, c'est pas Villeneuve. Je pense que c'est un bon essai de continuer un peu dans la même vision. Comme c'est pas Denis Villeneuve, ben ça paraît quand même. Là. Mais c'est un bon deuxième qui est pas réalisé par la même personne qui a fait le premier. Je pense que c'est une bonne suite, sachant que c'est pas Denis Villeneuve
pas la
qui
même
a fait
équipe.
C'est exactement.
Ouais, voilà.
Je trouve que ça s'est un peu éloigné de l'atmosphère dark, puis de l'espèce de sentiment d'impending doom, puis d'anxiété qui planait dans le premier. Ça l'a enlevé un peu de ça pour aller plus vers un film d'action classique, donc plus de guns et de pow-pow que d'atmosphère et d'ambiance.
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas mal la grosse différence, je trouve, entre les deux. Mais quand même bon, là, je veux dire.
Le premier aussi, il y avait quand même un assez bon punch là, à la fin, quand ils disent on est au courant que il y a de la drogue qui passe, mais au moins c'est notre drogue à nous autres. Puis tu sais que s'il y a 40 millions millions de personnes qui décident d'investir là-dedans, on peut bien se faire accrève, tu sais, il faut quand même, il y avait une espèce de fatalité qui était quand même pas mal cool dans le premier que
ben qui reflète quand même beaucoup la réalité de War on Drugs que Reagan ben, ouais, a commencé qui sert rien, absolument ça, ben, ça, ça c'est encore en vie puis ça donne fuck
ça, out. Ben, ça remplit des prisons de monde qui aurait pu en tout cas.
Ouais, ça va effectivement loin là, mais tu sais je veux dire à chaque fois qu'il trouve une où est-ce qu'il passe, il trouve d'autres mesures, tu sais, pour contrecarrer, c'est que tu peux jamais gagner là, c'est un peu comme le border crossing aux États-Unis qui veulent faire un mur, ben ils vont faire un mur, ils vont creuser en dessous, ils vont mettre des échelles, c'est super niaiseux. tu peux jamais, c'est impossible d'empêcher quelqu'un de passer quelque chose à un endroit. Ça
en fait la meilleure solution à ça, ça serait de s'arranger pour que le pays d'à côté soit pas autant avalé par le nôtre, qu'il y ait moins d'inégalités sociales et économiques entre la classe moyenne mexicaine puis la classe moyenne plus américaine ou d'Amérique du plus nord. Là,
c'est de rendre les solutions drastiques désuètes.
Et voilà.
Puis tu sais, rien n'est un meilleur exemple que de dire il y a du monde qui traverse le border entre la Corée du Nord et la Corée du Sud à tous les jours, puis entre la Corée du Nord et la Chine à tous les jours. Mm. Puis c'est un des pays les plus difficiles d'entrée, t'sais, au monde, là.
Puis ils font.
S'ils le font, c'est pas les Américains qui vont empêcher le monde de rentrer chez eux avec une mer à l'ouest puis une mer à l'est, certain.
Mais si, il y a bien une affaire que l'humanité m'a apprise, c'est que tu peux pas enlever à quelqu'un sa détermination. Tu vas toujours trouver quelqu'un plus déterminé que toi.
C'est clair. Moi, en tout cas, je l'ai pris un peu aussi comme une critique sociale sur justement The War on Drugs, parti il y a une 30-40 d'années. Là, par notre cher Ronald McDonald Reagan.
Cher acteur.
Oui.
Le meilleur de tous les présidents.
Y es-tu mort?
Reagan, ben oui.
Oui.
Une chance. Ça fait quand même une bonne tranche. Il reviendra pas. Après, ça avait l'air difficile.
Oui, j'imagine. Fait que c'est un très bon film.
Si on continue sur Denis Villeneuve, Enemy.
Ouais. Oui, et Prisoner pour moi.
Prisoner, oui.
Je l'ai oublié, lui, dans ma liste.
C'est celui avec Hugh...
Hugh Jackman,
oui.
On est-tu en 2010?
Oui.
OK, bon. Ouais.
Ben, je pense qu'il a fait Incendie pré-2010.
Incendie 2010.
C'est 2010 pile?
Oui, je pense que oui. Incendie, c'est 2010. Puis Prisoner, c'est 2013. J'étais sûr que c'était comme
2009-2008, moi. Mais ça se peut, je me trompe. En tout cas, ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait du cinéma plus accessible. Parce que je me souviens, Incendie, ça a quand même été son premier gros hit.
C'est vrai, t'as raison.
Puis après ça, il a fait, je crois, Prisoner ou Enemy en premier?
Non, il a fait Prisoner, ça.
Prisoner, Enemy, Arrival, Sicario, genre quelque chose comme ça.
Sicario, Arrival, après Blade Runner 2049. Yes. Ouais. Là, il travaille sur Dune. On peut avoir espoir.
Oui,
que ça va...
le film dont le logo me fait dire qu'il s'appelle Dunk.
Dunk.
Parce qu'ils ont... En fait, ils ont fait une fonte, ça c'est la designer en moi qui parle. Ils ont fait une fonte où ils voulaient que le U, le N et le E soient la même forme, c'est la même vague. Sur le poster, ils ont fait une étoile qui luit pour faire la barre du E. C'est juste que quand tu prends le logo sans étoile qui luit, ça fait dunk.
Dunk. Okay.
Fait que c'est quelque chose qui me chicote graphiquement parlant. Fait qu'à chaque fois que je le vois, je fais comme, c'est quoi ça, dunk?
C'est
dunk. Oh, fait que tu sais, c'est juste moi.
Voilà. Moi, j'aime ça que tu laisses s'exprimer, la graphisme
en toi. Moi, je pense que ça va être... En tout cas, si c'est pas bon, du moins, ça va être beau.
Tous les films sont rendus beaux, là. C'est plus vraiment...
Ça sera pas le Dune de Jodorowsky, ça va être le Dune de Villeneuve. Puis je pense que ceux qui attendent encore le Dune de Jodorowsky doivent faire une croix dessus, puis ils nous volent.
Non, mais dans le sens que, tu sais, oui, la plupart des films sont beaux, mais je veux dire, il y a une belle esthétique. C'est pas juste, tu sais, Star Wars, c'est beau, mais c'est pas toutes les Star Wars qui ont une belle esthétique.
Là, on est rendu dans le production design.
Non, mais les plans, la façon que c'est filmé,
t'as des réalisateurs de commande, puis t'as des réalisateurs qui ont une vision, puis qui transmettent leur vision. Puis Denis Villeneuve, ça donne que c'est un réalisateur vision.
Ça va pas mal plus dans les visions que Roland Emmerich, mettons.
C'est un autre style de vision, mais c'est pas de la cinématographie qu'il va faire.
Puis Rogers Normandin, y a-tu une vision, tu penses?
Oui, ça, c'est des visions. en esti.
De vision, c'est juste de vision.
Mais sinon, ben moi j'en parle là, Blade Runner 2049.
Ben oui,
moi c'est le premier, ça a été c'est encore un de mes films préférés, je trouve.
C'est vrai que c'est très bon.
La manière que le pastiche du film noir, puis de la manière que c'est développé, le fait que il y a eu tellement longtemps de la spéculation à savoir si le personnage d'Harrison Ford c'était un répliquant ou si ça n'était pas.
Yes.
Les dialogues étaient magiques dans le premier, mais il y avait surtout, au-delà de tout ça, une espèce de futur dystopique
Le cyberpunk,
superbement
là,
bien rendu.
Le cyberpunk, c'est l'essence, ouais, là, je veux dire. Moi, ça,
voilà,
c'est une de mes...
ça a donné Shadowrun après, Rift, ça, ouais, toutes sortes de mondes de jeux vidéo ou de jeux de table qui m'ont fait vibrer pas mal toute ma vie. Puis le deuxième, j'avais très hâte. J'ai beaucoup aimé le concept que... il a demandé à des réalisateurs de créer des films qui expliquaient les étapes importantes qui nous amènent où le film se passe en 2049, parce que on était comme parce que le premier c'est en 2017. Fait que là, on est quand même 22 ans dans le futur. Fait que, tu sais, c'est de quoi jaser ces 22 années-là. Puis c'est une très belle manière de booker ça. Le punch final, à toutes les fois... Tu sais, j'ai beaucoup plus aimé le film la deuxième fois que je l'avais vu. Le visuel est hallucinant quand il arrive à Las Vegas. Puis tout. Le monde, j'ai entendu souvent le monde chialer sur la trame sonore qui trouve juste des bruits.
Moi,
j'ai trouvé ça... Right on. J'ai trouvé que dans le premier, c'était Vangelis qui amenait une espèce d'impression de fantôme, tu sais, qui amenait comme une espèce de spiritualité à ce monde-là qui en avait plus. Puis dans lui, on dirait.
C'est ça, Hans Zimmer apporte une espèce de qualité de combat. En fait, Denis Villeneuve, ce que je me suis aperçu, c'est que sa filmographie, c'est toujours sur le combat interne des protagonistes. Tous ces protagonistes se battent contre eux-mêmes. Puis, je trouve que ces trames sonores sont ultra...
Littéralement, dans un des films.
Littéralement.
Littéralement.
Oui, oui. Puis dans 2049, c'est l'aspect métallique, sonore, très, très atmosphérique. Ça vient appuyer ce combat-là. Puis ça vient appuyer aussi le fait que... Est-ce que la personne qu'on voit est naturelle ou pas? Est-ce que c'est important? Et même en tant que spectateur, même la musique nous fait dire, tu sais... On est dans un monde métallique rough.
Oh, oui.
Mais il y a quelques petites choses organiques, quelque chose comme ça, c'est super.
Moi, quand il va à l'orphelinat à Seattle, là, où... Il me semble que c'est ça, l'orphelinat à Seattle, puis c'est comme juste un vieux stade pété avec plein de kids qui font de la broderie ou de... Tu sais, sacrément, ça m'a brassé, j'espère. Tu sais, on mérite mieux, là. Il y a eu des critiques. Le film aussi, de la manière que les femmes étaient traitées. Je pense que Twitter a réglé ça tout seul. Je sais que Denis Villeneuve avait écrit quelque chose, genre... T'sais, parce que le monde disait si le réalisateur nous montre sa vision, ben les femmes vont pas fort dans l'univers de Denis Villeneuve. Puis il a répondu, ben premièrement, c'est le futur
du
premier, c'est ça, tu sais, je veux dire.
Faut en prendre puis en laisser, puis c'est pas sur Twitter qu'il faut comme trouver la voie et la raison. Là, on laisse Twitter être Twitter. Puis aussi, on y va avec discernement, les amis. Un monde, ça se crée pas tout seul. Puis surtout quand on fait un monde dystopique, c'est sûr que tout le monde sera pas égal dans un monde dystopique.
Effectivement.
Puis c'est surtout que dans ce monde-là, personne n'est égal. Il y a personne qui est un au-dessus de l'autre, à part les grosses corporations. Ça inclut les enfants sont très, très, très bas dans la hiérarchie. Est-ce que c'est un film anti-enfant? Non. C'est un film dystopique.
C'est un film anti-humanité, hein, quelque part.
D'ailleurs,
même
le
méchant, il y a un très bon méchant, là, Jared Leto. Là, le fait qu'il voit au travers de tous ces petits insectes qui volent.
Il est toujours là.
Il
est toujours
capoté.
Là. C'est Google.
Ouais.
Toujours
c'est Google.
Jared Leto et Google.
Il est Alexa.
Il est Alexa, Google et autres
machins.
Ouais, puis quand il fait ses speeches, on dirait que c'est comme lourd, mais en même temps, c'est comme de sens, tu sais, parce que on comprend sa motivation de méchant qui veut comme dominer l'univers, mais il veut pas lui dominer l'univers, il veut avoir le potentiel de dominer l'univers. Puis en tout cas, c'est vraiment une crise de belle histoire. J'ai adoré Blade Runner 2049. Ça fait 3-4 fois que je l'écoute. J'arrive à plus 9. Là, à chaque fois, je trouve ça vraiment hot, vers le top. Juste la blonde que tu sais, il soit comme rendu un androïde tellement perfectionné qu'il ait le droit d'avoir un passe-temps puis une compagne qui ouais. C'est capotant en esti, ça, là.
Pis, ce que j'ai aimé, c'est aussi l'implantation de souvenirs. Tu sais, de savoir qui est, qu'est-ce qu'on est. Est-ce que c'est nos souvenirs qui font de nous qui est-ce qu'on est? Puis ça, j'ai vraiment aimé le questionnement de, tu sais, qui sommes-nous?
Ouais, ouais, ouais.
Puis de ça, cet angle-là, de l'angle de ce qu'on a été, ça, j'ai trouvé ça comme percutant. Fait que cet angle-là, Denis Villeneuve l'a trouvé. En fait, Denis Villeneuve est comme capable de toucher toutes mes cordes sensibles. Fait que let's go.
Il a bien fait ça. Toi aussi, tu le mets dans ton top comme notre ami Milan
oh,
ici.
Oh oui. Ben, ouais. Denis Villeneuve est clairement dans mon top. Ben, puis oui. Déjà là, avec Prisoners, j'étais hooked.
C'était très bon, effectivement.
Moi, Denis Villeneuve, je l'ai découvert tournant 91 dans ces eaux-là. Il avait fait le clip « C'est l'été » de Boondock.
Oui.
Et Boondock Lanois. Et moi, j'adorais ce clip-là. Je trouvais que c'était verni et tout. Puis ben voilà, bravo. Un Québécois qui est considéré, parce que c'est pas juste nous autres qui dit ça. Je pense que...
Non.
L'industrie a reconnu Denis Villeneuve comme étant le réalisateur des années 2010 à 2020, la décennie yes. 2010. Bravo, tu sais.
Ben,
il a l'air sympathique aussi, il a l'air yes. jasable là,
oui.
dans les clips, parce que j'en ai parlé au début, là, mais les trois réalisateurs à qui il a demandé de faire des films avant, il est présent sur YouTube. C'est tout gratuit sur YouTube, ces films-là. Et j'ai trouvé ça quand même vraiment hot. Aussi, c'est un film que, même s'il y avait beaucoup de CGI, on était dans les props surtout, tu sais, c'était,
oui.
C'était des vraies fausses villes, c'était des, tu sais, j'ai beaucoup
un
aimé ça.
Un mashup des deux, tu sais.
Puis Harrison Ford avait l'air d'aimer ça, faire un film, genre,
oui,
c'est...
il jouait pour vrai.
Ouais.
Il avait
ouais.
l'air d'aimer être sur le plateau, ce qui est rare, là, maintenant.
Ça arrive plus. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu Harrison Ford avoir du fun à faire un film.
Moi non plus. Puis même, c'est une des affaires que j'ai dit, parce que j'ai amené ma mère voir 2049.
Oh, c'est cute!
Et elle a beaucoup aimé.
Oh.
Puis les deux, on était étonnés de voir qu'Harrison Ford pouvait jouer autre chose qu'Harrison Ford.
Il était capable encore.
Il était capable encore. Hey, leçon de courage.
Et voilà.
Puis je tiens à lever encore mon chapeau à mon... je vais le dire, là, c'est mon directeur photo préféré, là, Roger Deakins.
OK.
Qui a scoré fort dans les années 2010. Dans les
Ben,
dans
il a fait Blade Runner 2049.
Il a fait Blade Runner 2049. Il a fait un de mes favoris aussi de 2019, 1917.
Ouais.
Il a fait Skyfall aussi.
C'était bon.
Ouais, c'était bon. C'est un bon James Bond. La plus grosse explosion yes. ever. Là, à la fin, c'est-tu là-dedans qu'ils font
oui.
sauter la bâtisse? Puis,
oui. Puis, je veux dire, les jeux de lumière et d'ombre que Roger Deakins joue beaucoup sur ces affaires-là. Il joue sur les couleurs qui sont dichotomiques, les couleurs complémentaires. Puis, j'aime beaucoup sa façon de travailler, de t'sais, souligner des images avec ce genre de photographie-là. Fait que pour moi, je lève mon chapeau à Roger Deakins.
Ben, c'est souvent des artisans desquels on parle moins, là, mais le réalisateur,
yes.
il en doit tout le temps beaucoup à son,
yes.
à son preneur d'images, c'est
le,
sûr et
le
certain.
Le combo Denis Villeneuve, Roger Deakins et Sam Mendes, Roger Deakins, c'est des combos de la mort qui tuent, là.
Mais dans le bon sens.
Dans le très bon sens.
Fait que, ben, bon premier choix, Milan, on est tous d'accord avec
toi. Je t'allais fort, là, j'en ai passé en arrière qui chiale, mais il est pas là. Fait que c'est peut-être pour lui, mais on a raison.
Ben non, il peut pas dire que c'est de la merde de Nivea. Oh, on va le laisser être capable de dire.
Non, écoute, moi je suis 100% certain.
Il y en a pour tous les goûts dans le
Exactement.
Cinéma. Puis si Pascal aime pas Denis Villeneuve, il va trouver qu'il y a un
non,
autre réalisateur.
Je pense pas que
aller on the side.
Je pense pas qu'il l'aime pas. Je pense qu'il trouve que c'est juste ordinaire comparé à ses idées de grandeur de regarder 3000 films par deux jours.
Est-ce que Greg Zahler est quand même. J'ai hâte de voir Drag de Cross Country.
Effectivement.
Là, mais Bone Tomahawk puis Brawl in the Cell Block 99, c'était vraiment excellent
yes.
ces deux affaires-là. Anyway, il est pas là. Toi, Florence, c'est à ton tour.
Moi, je vais mentionner un gros nom. Je vais l'amener sur la table comme ça.
Shakira?
Hein?
Shakira?
Ah non, pas ce gros nom. Non,
Neil Breen.
Excuse ça, il était poigné dans l'autre affaire. Non, c'est Wes Anderson.
Ouh!
Oh. Hey, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé un film de Wes Anderson.
Toi,
je l'adore. Déjà là, il m'a eu avec son Fantastic Mr. Fox. Puis ça, c'est un de mes films préférés de la décennie 2000-2009.
OK.
Je pense que c'est mon top 1. Là.
Ah
ouais, oui.
C'est vrai que c'était bon.
Puis, Wes Anderson a fait Grand Budapest Hotel, Moonrise Kingdom. Il a fait aussi The Isle of Dogs. Fait que José,
il y avait ça c'est mon préféré, il y avait plein de chiens, l'île de chiens.
Une quand même chiens. Bonne décennie pour Wes Anderson, et pour moi c'est Grand Budapest Hotel qui reste, que ce soit un traitement sérieux et un peu comme ironique et même plein d'humour d'un sujet encore plus sérieux et très très rough, qui est comme la Deuxième Guerre mondiale. Et son invention d'un autre pays, d'une autre langue, d'un autre contexte géopolitique, j'ai trouvé ça brillant. Sa façon de filmer ça, sa façon de gérer les couleurs, pour moi,
ouais, c'était excellent. Ça, c'est un très visuel réalisateur, c'est sûr et certain. Là, lui, il a son style, hein, sa prestige.
OK, oui.
Il amène tout le temps comme une espèce de bout aussi en... genre comme quand il va dans l'eau, là, tu sais, de voyons dans le film du sous-marin, là, avec...
Oui, l'aquatique.
Ouais, il y a tout le temps comme un bout un petit peu plus fuzzy, on dirait que le monde dort, là. Moi, j'aime ça quand il y a comme un peu décroché comme ça. Là, c'est,
oui.
Ça devient absurde aussi, à un moment donné, que c'est comme The Royal Tenenbaum, à un moment donné, c'est comme, ça se peut plus, tu sais. Il n'y a pas de relation.
Beaucoup de dialogues solides. Ça en est un qui s'occupe pas mal de toutes ces shit aussi. Oui. Là. Lui, il doit servir de bord, puis dire, j'ai besoin de 30 millions pour filmer un film, puis il y a comme... deux, trois compagnies qui font tiens,
en plus 60, moi, c'est ça.
Mais tu sais, aussi...
Moi, j'en ai pas vu.
T'en as pas vu?
De 2010 à aujourd'hui.
T'as pas vu L'île des chiens?
Non, j'ai pas vu Isle of Dogs, j'ai pas vu Fantastic Mr. Fox non plus. Moi, j'ai vu tous ces films dans les débuts 2000, là, de 2000 à comme 2008. Là, ça, je les ai tous vus, et avant 2000 aussi, je pense qu'il y en a fait un ou deux, là, je me souviens plus. Oui,
ça fait quand même.
J'en regardais plus ça quand j'étais plus jeune, étonnamment, parce que mon père adorait Wes Anderson, et donc je le regardais avec lui. Et puis en grandissant, j'ai comme...
Pas décroché un peu.
Pas décroché, mais mon centre d'intérêt était sur autre chose. Donc, je regardais autre chose.
Steven Seagal.
C'est un très gros centre d'intérêt. D'ailleurs, 2020, c'est l'année où il faut que je finisse tous les films de Steven Seagal.
Ah ouais, mais comme on ramène la troisième partie.
Ouais, ben il y en a deux autres, hein, trois puis quatre. Fait que là,
une résolution 2020.
Bientôt dans vos faces de podcasting, les amis. Mais c'est pas de ça qu'on parle. et en fait, je trouve ça. Je sais pas, j'ai comme regardé
d'autres choses. T'accroches moins.
Non, j'aime ça. C'est, si je veux dire...
on essaie de t'aider.
Non, non, j'aime ça, mais je sais pas pourquoi j'en ai pas regardé.
OK.
Ben, j'ai regardé la pochette, puis j'étais comme, j'ai-tu vraiment le coup de regarder ça?
Ben, un moment donné, c'est ça. Un moment donné, Wes Anderson s'impose à tes yeux. Genre, c'est... des fois, tu peux comme aller chercher le Wes Anderson dans ta collection DVD, comme je le fais, ou des fois, c'est juste ça tombe devant tes yeux, puis tu fais comme, oh, je reste captivé. Fait que, pour moi, c'est l'un ou l'autre, là. T'sais, tu peux ne pas être dans le mood Wes Anderson, puis c'est correct.
Ben, c'est... Ouais. Je pense que c'est plus ça.
Il faut être dans un mode spécial pour regarder.
Moi, je suis quelque part entre vous deux, je dirais. J'aime beaucoup l'île des chiens. J'ai beaucoup aimé aussi. J'aime ses couleurs. J'aime les acteurs qu'il prend aussi. Oui. Là, les Wilson, puis l'autre Brody là, qui reviennent souvent.
Schwartzman.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a. En tout cas, voilà. Là, j'aime sa rotation un petit peu. Oui. Ça a l'air d'être du monde avec qui il aime travailler. Puis moi, j'aime ça. J'aime ça, cette idée-là, ça fait une équipe solide. Tu sens que le film est plus comme un consensus que
juste une personne qui dit on fait ça.
Ou un suit qui arrive on the side puis qui dit oh, tu coupes ça, puis là, c'est rendu d'autres choses. Fait que c'est sûr et certain que c'est un auteur, Wes Anderson. Oui. Il fait du cinéma d'auteur, il fait ses affaires à lui. Lâche pas,
non, il est supposé en avoir un autre. French Connection, je pense, ou French French Dispatch.
Parce que French Connection, c'est souvent de la mafia, là, mais...
Ah ouais, non, mais il y a plein de French Connection, puis il y a plein de films qui s'appellent comme ça. C'est French Dispatch, je devrais dire.
Il y a aussi le FOC.
Le FOC?
Ouais, French Connection UK, FC UK, c'est une marque de vêtements. Il s'écrit FCUK, mais c'est comme FOC, mais il y a comme deux lettres inversées. C'est le FCOC. Le FOC, le FCOC.
C'est comme FOC Buckers.
Ouais. C'est ça.
Oh, écoute. Mais toutes ces marques de vêtements.
C'est ça.
C'est à quand dans un film de Wes Anderson? On sait pas. Je pense pas.
Mais toi, le dernier que j'ai vu, c'est Darjeeling Limited, je pense.
Darjeeling
2008. Ouais, moi aussi, je pense. Ben, à part celui de l'île des chiens, parce qu'il y avait des chiens.
Il y avait des chiens. C'était super beau. Fait.
Mais c'est de l'animation aussi. J'aime beaucoup ça, les affaires d'animation.
Et oui,
il y en a fait animation deux d'animation.
Oui, Fantastic Mr. Fox.
Je pense que, d'ailleurs, Fantastic Mr. Fox est sur Netflix présentement.
Oui. Oui, allez le
checker.
Ben, servez-vous. C'est ton premier des années 2000 à 2010.
C'est mon préféré de la cinématographie Wes Anderson.
Bon, en plus,
je dois dire, oui.
Ça en est un bon. Est-ce que tu as terminé avec ça?
Ben, aussi, je dois dire que Wes Anderson a un très bon choix pour ses trames sonores. Alexandre Desplat et lui ont un saltifi de bon travail. Fait que je pense que ça vaut la peine aussi d'écouter les trames sonores qui viennent avec. Je vais beaucoup parler de trames sonores parce que j'aime
Alexandre
beaucoup la musique de
Desplat.
Film. Alexandre Desplat.
Desplat. C'est un Allemand ou non?
C'est lui qui fait ses musiques originales.
Desplat. OK.
Alexandre
Desplat. Jusqu'à temps qu'on me dise que non, ça se prononce Desplat ou Desplat ou Desplat.
Ben oui, j'ai D-E-S-P-L-A-T.
Ouais.
Moi aussi, j'aurais dit Desplat.
Ouais, ben Desplat. Voilà.
C'est Desplat.
Desplat.
OK.
Desplat. Ben, tu sais, c'est ça.
C'est lui qui choisit, hein. Moi, ça s'écrit Godet, mais on dit Godette.
Ben, c'est ça. Jusqu'à temps qu'on me dise que non, c'est pas de même qu'on le prononce. Ben, je
l'ai prononcé autrement depuis.
Ben, voilà.
Desplat. Ben, ça, c'est quoi? C'est le gars qui fait les tunes originales, qui écrit des tunes pour Wes Anderson? Ou?
Entre autres, les deux ont beaucoup travaillé ensemble sur dans toute la filmographie de Wes Anderson, surtout avec Fantastic Mr. Fox, où il est capable de faire revivre comme un peu des musiques enfantines un peu et un peu sérieuses. Dans Moonrise Kingdom aussi, il a fait la trame sonore, Grand Budapest Hotel. Fait que c'est un habitué de l'univers de Wes Anderson et okay. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter.
C'est sûr que la musique, c'est important pour faire vivre un univers si lui est responsable depuis longtemps.
Ça fait partie de la team de cinéma. Voilà.
Là, on est en train de c'est ce qu'il joue encore hein, depuis la semaine passée en background.
Ça fait une semaine
Pikachu
complète.
Qui est en train de pleurer. Ash qui est en train de recevoir de la magie. Là.
De l'amitié.
Les pixeling, tous les Pokémon autour sont en train de réaliser qu'il faut donner de l'amour puis tout. Là. On a écrit à ma job, on a écrit une parodie du Poké-rap pour notre jeu.
Oh non!
le mélange est encore plus.
Là, Jésus y arrive parce qu'il y a comme un gros halo de...
À voir. Ça aussi, c'est sur Netflix, mais commencez par le Fantastic Mr. Fox.
Oui. En fait, éviter Pokémon, c'est pas
possible. Je vais y aller, je vais garder mon autre.
C'est bon.
Bon, merci beaucoup, Florence.
Aye, de rien, ça fait plaisir.
Pour ton Wes Anderson, t'as fini là-dessus?
Oui.
Pas avoir l'air mal poli. Moi, je vais ici avec un gars que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle John Michael McDonough. C'est un réalisateur irlandais qui a fait trois films dans la décennie qui nous intéresse. The Guard en 2010, Calvary en 2014. Les deux, c'est avec le même acteur que j'oublie c'est quoi le nom là. Et War on Everyone en 2016. Le meilleur, c'est The Guard en 2010. J'y ai donné plus 7,8. Après ça, de Calvary, plus 7,6. Et War on Everyone, plus 7,5. C'est très dense, je dirais, très rude comme cinématographie. The Guard, c'est l'histoire d'un garde côtier. On sait pas si c'est un crise de cave ou s'il est super intelligent. Il est comme...
Les deux.
C'est ça, il est comme un petit peu teflon par rapport à l'autorité. Ça commence à faire longtemps que je l'ai vu. Au travers de ça, c'est surtout Calvary qui m'avait pas mal brassé. Le même gars qui jouait le garde, il jouait un prêtre qui avait plus vraiment la foi. Puis c'était dans un petit village irlandais et tout. Moi, j'ai pris les sous-titres rendus là, je comprends. Watch me, mate, là, tu sais, des affaires de même. Mais voilà, c'est une affaire très rude. Ça finit. C'est une séquence finale que je pense encore souvent, celle de Calvary. Trois excellents films. Là. Sinon, War on Everyone, là, il est venu aux States pour faire ça, parce qu'à un moment donné, tu deviens assez hot, fait que t'as le droit de venir aux States faire des films. Et c'est un body movie de policiers corrompus qui décide de virer gentil vers la moitié du film. Parce qu'il voit que ça a plus rapport, puis que ça marche plus. Puis c'est vraiment excellent. Je vous le souhaite encore une fois, ça aussi, War on Everyone de 2016. Ça m'a pris deux fois l'écouter, celui-là, parce que j'avais pas fait le lien que c'était le même réalisateur que ces deux autres films-là avant, que j'ai trouvé excellent. Et la deuxième fois, là, j'ai revu son nom, je vais... Ah! Ah, OK. Fait que là, j'ai focusé. Là, j'ai compris. Tu sais, au début, la caricature est comme grosse. Puis à un moment donné, tu vois là. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vraiment, vraiment très bon. Puis c'est avec le bronzé là, qui est dans l'univers de Marvel aussi. Là, il était dans Chips, le remake de Chips. Là, en tout cas, je suppose que c'est super important le nom du. Fait que moi, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, surtout si vous le connaissez pas. John Michael McDonough, ça m'a pas mal brassé. Oui.
Je mets ça dans ma note cervicale mentale.
Ouais, ton affaire qui marche.
Ouais. Ton affaire qui marche.
Juste quand ça me tente.
Ah oui, ben, si on écoute bien, on est rendu à toi, Milan.
Ah ouais?
Yes. On va faire un deuxième tour, certain.
Tabaslac de Saint-Christ.
On a jasé de grosses affaires. Ouais, c'est loadé.
J'étais pas prêt, là. T'as une minute.
Ben, si tu veux, on peut aller à Florence, là. Une feuille de notes, puis toi, tu prendras des notes pour la prochaine fois.
Non, non, mais il faut juste que je sorte mes notes mentales
De là, là. Moi, je vais commencer avec Luca Guaragnino.
Oh, OK, je connais pas.
Qui m'a surpris. Je pense qu'il est à l'origine de Your Name. C'est le film sur un garçon qui se découvre homosexuel via des aventures avec un homme plus mature dans les années 50-60 qui s'était rendu aux Oscars. Fait que ça, je pense que c'est Luca Guadagnino. Mais il a fait le film dont je vais vous parler maintenant, qui est Suspiria, qui est un remake du film de Dario Argento. En fait, c'est pas tellement un remake, c'est une réadaptation, une adaptation, point, de Suspiria. Et ça se passe, contrairement... Dario Argento faisait ça dans les années 70, ça se passait dans les années 70, début 80.
Oui.
Et Luca Guadagnino a décidé de pousser cette idée-là et de faire Folland 80, mais à Berlin. Fait qu'on a comme l'esthétique de Berlin après-guerre, de Berlin qui souffre parce qu'il y a un mur de fer.
C'est pas des belles heureux, des belles années.
Non, c'est pas des belles années, mais on voit comme le Berlin, gritty. Et on va dans une école de danse qui, eux, se concentrent sur de la danse gritty. C'est de la danse où c'est pas beau. On focus pas sur le beau, on focus sur le corps, on focus sur tout ce qu'on est capable de faire.
C'est une école de danse pour femmes, comme dans le premier, OK.
Exact. Puis on s'aperçoit que plus ça va, puis plus c'est comme des gestuels pour faire une espèce de sort, ce qui est pas fou. Quand on pense à la danse, c'est souvent la gestuelle d'expression.
Ben ouais.
Puis prendre cette gestuelle-là pour faire de la magie, je trouvais ça intéressant.
C'est très... Puis peut-être que même les étudiantes ne savent pas qu'ils sont en train de summoner un démon, là. Si tu leur montres de faire des mouvements, puis tu dis c'est de la danse.
Exact.
Oh, OK.
Puis on voit après ça, plus on va en profondeur dans cette académie-là, plus on voit que l'académie est vraiment, vraiment bizarre, gérée par juste des femmes. Et ces femmes-là se tirent un peu les cheveux entre elles. Là. Genre, il y a une mère supérieure qui est la boss des Bécosses, et soudainement, cette mère-là n'est plus. Et c'est toujours des conciliabules pour savoir qui va être la mère supérieure.
La nouvelle
après.
Mère, oui.
Et là, il y a des votes qui se passent à l'interne, puis on se rend compte que non, la mère supérieure n'est peut-être pas partie.
Oups. Puis
c'est comme quelque chose d'encore plus inquiétant. Et ça vient souligner toute l'idée atmosphérique des années 80, tout le dilemme des années 80 de genre, est-ce qu'on doit plus focusser sur l'ensemble de la communauté ou sur l'individu? Qu'est-ce qui est le plus important? Puis j'ai trouvé que cette affaire-là, en fait, ça a été mon top de l'année où c'est sorti.
Je me rappelle, tu en avais parlé l'année passée.
Puis la trame sonore aussi avait été faite par Tom York, qui vient comme souligner le gritty et la danse.
Uncle Tom.
Et,
je l'aime bien, moi.
Ça vaut la peine de
tu
voir
tu connais
ça.
Bien, t'es un fan de... Ah ben oui, tu t'es fait tatouer du...
Il y a aussi Tilda Swinton qui joue dans ce film-là et qui a plusieurs
rôles.
Moi,
tu m'as convaincu, là, je vais aller le louer sur le club vidéo en ligne pour écouter ça après.
Yes.
D'ailleurs, Kick-Ass Torrent est revenu pas mal.
Tu veux dire.
Je suis plus sur le club vidéo de Pirate Bay, je suis sur le club vidéo de Kick-Ass Torrent.
C'est ça, le blockbuster Kick-Ass Torrent. Hein?
Le vidéoclub Torrent. Ouais, on peut emprunter des films et ne jamais les rapporter.
Je le vois la personne.
Écoute, c'est là, c'est là.
Et voilà. Mais oui, sur Spiria, tu as aimé ça au point de l'amener dans... Puis là, tu parlais de Lucas, j'ai trouvé ici sa liste. C'est le film qui te fait le placer dans ton top 10.
Yes.
Sinon, on check ça a brassé quand même pas mal, mais surtout des courts-métrages.
Oui, vraiment, c'est pas un réalisateur qui a fait des longs-métrages beaucoup. Il a fait Your Name, puis
Un Italien aussi, c'est-tu comme important qu'un Italien... Genre l'esthétique de Argento, c'est lui qui avait fait le premier Suspiria.
Ouais.
C'est un Italien lui aussi. Y a-tu comme un lien? T'as-tu remarqué quelque chose entre les deux?
Je sais pas si. Ben c'est ça là. J'ai pas vraiment remarqué parce que l'esthétique est complètement différente. Surtout est complètement différente des deux films, des deux longs métrages qui se sont comme dispersés à travers le monde de Luca Guadagnino. C'est pas des. Tu sais, il va vers des couleurs plus saturées dans Call Me By Your Name, puis dans Suspiria, c'est des couleurs plus éteintes sur certains trucs, puis il joue beaucoup dans la sentimentalité, en fait. Je pense que c'est ces deux, c'est sa trame de fond cinématographique. Là. C'est, c'est la sentimentalité puis la transformation.
Puis t'aimes-tu mieux le nouveau Suspiria ou l'ancien?
Oui. J'aime les deux.
Réponse,
j'aime les deux également.
Ah, c'est... Voilà. Moi, je pense que j'ai. Le premier, je l'ai vu, ça fait très longtemps. Mais là, le deuxième, demande-moi dans 3-4 heures, ça va être réglé ce dossier-là.
Bon, je t'appelle.
Mila, as-tu trouvé ton deuxième sujet?
Get Out.
Ah, ça n'est pas pire, ça.
Oui, Get Out de Jordan Peele de 2017. J'ai choisi une année aléatoire dans mon letterbox pour me remettre dedans les esprits. Parce
un premier film, ça, pareil.
Oui.
C'était son premier film. Il avait fait Kino avant, mais c'était avec encore Michael Keegan-Key. Là, c'était son premier film.
Et tout qu'un film, quand même.
Ah, c'est, oui.
Moi, j'ai pas vu les autres qui ont suivi par la suite, encore.
Ben, il y en a juste un. C'est Us.
Je dis les, mais
il y a Antebellum aussi.
Oui, c'est ça qui s'en vient.
Ah, ben voilà.
Je pense
je sais aussi qu'il a participé.
Ou c'est peut-être les mêmes producteurs. En tout cas, ça feel vraiment comme ses films à lui, mais je pense pas que c'est lui qui le fait.
Okay. Ben ouais, il a fait une série là, qui tue des nazis là, dans le passé. Là, les Hunters, je pense.
C'est Jordan Peele qui fait Hunters sur Amazon Prime. Okay, je sais pas.
À suivre, là, allez voir, là, mais il me semble qu'il y a pas mal impliqué là-dedans.
Mon lore de Jordan Peele est un petit peu faible.
On avait parlé de lui avec Bruno et Pascal. Avec il a beaucoup moins aimé le deuxième, il n'est pas trop fan. Moi, j'ai beaucoup aimé Get Out. C'est sûr. Un peu moins, mais il paraît qu'il est beaucoup meilleur la deuxième fois.
Bon, ben moi, je n'ai pas vu Us encore, donc je ne peux témoigner. Ce que je peux dire, par contre, c'est que j'ai vu Get Out.
T'es tellement occupé à écouter des Steven Seagal.
Entre autres, mais...
Écoute.
173 films.
Il y a la Seagalomanie.
C'est atroce, man, ce qu'il fait aujourd'hui. Mais Get Out, j'ai beaucoup aimé. Je savais pas c'était quoi le film avant de le regarder. Je l'ai regardé après que ça soit sorti. Je l'ai regardé juste l'année passée, je pense. J'étais avec des amis, puis... Get Out, bon... tu regardes la pochette, ça a l'air d'un gros film d'horreur avec des vampires ou je sais pas quoi là, tu sais. J'ai pas regardé le trailer, j'ai pas vu, j'ai pas lu, mets ça, on regarde ça, et j'ai été étonnamment très surpris parce que je m'attendais pas à ça. Ben bon, rendu au milieu du film, je me doutais d'où ça allait, mais c'était vraiment très cool. Toute la passe de l'hypnotisme, ces affaires-là. Là, c'est un film d'horreur, mais d'horreur plus basé dans la réalité que dans le fantastique. C'était très cool. Évidemment, quand même, je pense, un gros commentaire social sur le racisme aussi. Là.
Ah, ben, c'est peut-être
évident.
T'as-tu remarqué?
Oui, je crois. Et je pense que ma scène préférée, c'est quand tu vois l'espèce de jardinier black qui court, beelining juste. Direct dans ta face, là, t'es comme, je fais quoi? Je m'en vas-tu? Je reste-tu là? Y es-tu correct? Est-ce qu'il faut que j'aille peur? C'est-tu normal?
Qu'est-ce qu'il me veut?
Qu'est-ce qu'il fait? Puis ça, c'était vraiment freaky comme scène.
Ouais, ouais, ouais. Puis c'est comme réaliste aussi. Fait que, ouais. Dans le sens que c'était pas, il n'y avait pas de flamèche, là, c'est juste comme
non,
malaise.
Il courait, là.
Ouais, c'est ça, c'est peu,
lui, il faisait son sport là, à 3h du matin, pas de problème. Là, puis t'es comme, what
c'était
the fuck.
C'était quoi, tu penses? C'était parce qu'il voulait essayer de sortir le blanc qu'il y avait dans sa tête? Puis...
Moi, je pense que c'est encore plus insidieux que ça.
Oh.
Je pense que ça joue sur les peurs raciales de quelqu'un qui t'sais, un homme noir qui va courir dans la rue,
ouais.
qui va courir en arrière de toi, peut-être que tu vas avoir plus peur que si t'es un homme blanc. Puis je pense que c'est très on the nose comme ça.
Okay.
C'est surtout que comme cette personne-là est à fond de train, elle court, puis après ça, whoop, elle diverge, puis c'est là que tu fais comme ah. Oh.
Ouais, c'est vrai, ça.
C'est vraiment genre une montée de la tension comme ça, ouais. graduelle. Puis même si c'est un protagoniste noir, on sent à travers lui toutes les tensions raciales qu'il y a dans cet univers-là. Fait que je trouvais que c'était... Comme moi, je l'ai lu comme ça.
Tu dis cet univers-là, mais on pourrait dire
dans notre société
aujourd'hui.
Oui.
J'ai bien aimé quand ils jouent au bingo, moi, pour. Puis tu sais, qu'on comprend rien, là, qu'ils ont tous le code entre eux autres de vieux riches malcommodes croches. Quand on apprend que la fille, dans le fond, est pure evil. Là, puis
ouais, parce que tu le sais pas, tu t'en. Peut-être qu'elle sait pas, peut-être qu'elle sait, mais finalement, c'est pas mal une des pires. Là. Ouais,
tout le gaslight qui accompagne tout ça, c'est genre non, t'hallucines, puis tout ça, puis c'est toutes les affaires comme gaslight qu'on, qui sont dites aussi. Genre, fait que, en tout cas, un beau commentaire social.
Un excellent film.
Ben bon choix, t'en parleras avec Bruno, il va être content.
Es-tu content, Bruno?
Bruno, il est content. Ah, okay, c'est bon.
Oh, oui.
Fait que ça s'en vient à mon deuxième choix de la soirée.
Oh,
dans
yes.
quoi que je vais aller, moi?
Hey, c'est
bien, je vais me le garder pour une autre fois.
Oh.
Dans le fond, je vais vous parler, parce que là, je viens de vous parler de mon film préféré, Blade Runner 2049.
Yes.
Je vais vous parler de mon deuxième et de mon troisième film préféré des 10 dernières
Let's
années. Tu sais, moi, ça fait depuis 2014 que j'écris une critique de chaque film que j'écoute. Et
yes.
C'est un exercice que je recommande vraiment à tout le monde. Là. Moi, j'y vais étoffer 2-3 lignes pour être capable de s'en remettre une note qui est en laquelle vous avez confiance parce que c'est vous qui l'avez donné. Moi, je vous encourage vraiment beaucoup à écrire des critiques. Fait que ça a été quand même un exercice un petit peu qui était déjà écrit. Là. Moi, j'ai juste comme rechecké mes affaires puis je checkais les notes que ça avait et tout et tout. Et j'ai été très surpris de constater que mon deuxième film préféré des 10 dernières années, c'était Peanuts de Movie. Ah non, c'est pas vrai, en fait, c'est mon troisième. Fait que mon troisième préféré, c'était Peanuts de Movie, le film de Charlie Brown. Puis là, tu sais, j'ai comme fait plus de recherches pour aller voir. Et j'ai appris que, parce que Charles Schulz, quand il est mort, il a dit c'est fini, il n'y a plus rien de nouveau. Fait que quand c'est sorti, je me suis dit qu'est-ce qui se. Tu sais, pourquoi? Ah ouais, ok. Mais tu sais, là, je l'ai écouté, puis j'ai trouvé ça hallucinant. Ça ferme toutes les parenthèses de tous les personnages que moi j'adore cet univers-là. Là. C'est même, je dirais, un des univers les plus importants à la culture populaire moderne. C'est là-dedans que, en fait, Charles Schulz a donné une maladie psychologique à chacun de ses personnages. Et c'est ce qui a permis, après ça, l'éclosion de héros comme Spider-Man, qu'il y avait des problèmes dans la vraie vie parce qu'il fallait pas qu'on le voie, il fallait qu'il paye son loyer en travaillant, puis toutes ces affaires-là. L'ère des héros parfaits comme Dick Tracy, Mandrake, Superman était révolue. Tu sais, mettons, si t'imaginais Mandrake faire quelque chose ou tu sais, peut-être quelqu'un qui
connaît
plus, ben il y avait raison. Puis il faisait bien, puis c'était parfait.
Ah, okay, dans le sens
si Superman faisait n'importe quoi, tu sais,
Superman,
tu pouvais pas l'imaginer s'asseoir devant une TV en train de faire Odyssey. Ouais.
Superman, il pète sa sang vanille, genre, c'est.
Genre, peux-tu faire ça sans rien faire exploser?
Mais oui, c'est juste une belle senteur de vanille pour comme embaumer ta maison.
Voilà.
C'est sûr.
Ah,
c'est tellement bon, parfait.
Fait, en tout cas, tout ça pour dire que effectivement. L'univers de Charles Schulz, tu sais, il y a bien du monde qui. Tu sais, il y a deux lesbiennes. On se leurra pas, là. Il y en a une qui appelle l'autre monsieur. Puis, tu sais, parce qu'à l'époque, là, on est en 1950, les mœurs, c'est différent. Ça a été la première fois qu'un noir joue au baseball avec des blancs dans de la culture, dans de quoi de rendu. Les filles jouent au baseball avec les gars aussi. tous les personnages, on peut y penser. Mettons, Schroeder, qui joue du piano, c'est un mégalomane. Snoopy, c'est le complexe de supériorité parce que c'est un chien qui devient avocat, qui dort sur sa niche. C'est pour ça qu'il dort sur sa niche. Il ira pas faire comme tous les chiens puis dormir dans sa niche. Charlie Brown, à l'inverse, lui, c'est le complexe d'infériorité parce que tout va mal tout le temps. Lucy, c'est la femme dominante, des mouvements de brûler des brassières, ces affaires-là. Au contraire, Sally, la petite sœur de Charlie Brown, elle, c'est la femme dépendante. Linus, c'est un schizophrène. Lui, il parle à sa couverture. Il attend la grande citrouille. Il attend...
Il y a toujours plein de poussière, cet enfant-là.
Non, ça, c'est Pigpen qui s'appelle. C'est... Et c'est pour ça que... tout le monde se demandait pourquoi lui, c'est ça. C'est parce qu'il y a une maladie, puis lui, ça donne que c'est elle. Il y a même un noir dedans. C'est ça, c'est une grosse maladie. Hey, on s'entend. Vous savez ce que je veux dire. Et voilà. Tant mieux, parce que Charles Schulz a aidé à briser ça. Yes. Et quand il est mort en 2000, il a dit « Je veux plus jamais qu'il y ait rien qui se fasse là-dessus. » Et j'ai appris comment que ça est venu à exister, ce film-là. Parce que sur son lit de mort, Charles Schulz a dit à son fils ce qu'il aimerait comme film qu'il n'a pas eu le temps de faire. C'est capoté. Puis là, le fils, il a attendu 15 ans avant d'avoir l'équipe puis le contrôle parfait. Tu sais, pas de suits qui débarquent puis qui disent on finit pas ça
de
même.
On veut plus de
chien. C'est le film de Charles Schulz 15 ans après sa mort.
Oh, cute.
C'est hallucinant. Il y a tout ce que tu veux de Charlie Brown là-dedans. C'est fluide entre les volets. C'est du plus 8,5 le film de Charlie Brown. Je suis assis là-dessus, barré ben tout.
Puis dirais-tu qu'il faudrait connaître tout l'univers?
Absolument pas.
Non?
Absolument
pas. Moi, je connais Charlie Brown parce que tout le monde connaît Charlie Brown. Tu comprends? Là?
Ben
mais
oui.
Mais je suis pas un aficionado de Charlie Brown, mettons. T'sais.
Ah non, mais mettons des affaires. Si je te dis Charlie Brown cherche la petite fille rousse,
ouais.
C'est peut-être pas un concept que tu sais. Mettons que tu le sais d'avant, mais là-dedans, il y a rencontre, puis elle est là, puis on l'a jamais vraiment vu avant, puis elle est là, puis des fois, il parle, puis c'est
ben.
T'sais, potent. Snoopy, il va régler le cas au Red Baron. C'est vraiment super bon, ce film-là. Puis le Red Baron, ça n'a pas rapport. Là, c'est qu'il embarque sur sa niche, puis ça devient un avion. Tout est là. C'est danse. J'ai adoré ce film-là. Sinon, ben mon deuxième film préféré, j'y ai donné la même note que Blade Runner 2049.
Ah, ben, tape de l'été.
C'est un autre film qui est sur... je l'avais vu sur Netflix. C'est un film brésilien.
Oh.
C'est un film d'animation qui s'appelle Boy and the World de 2013.
Oh.
C'est un gars qui s'appelle Alé Abreu qui a fait ça. Et c'est... Il y a pas de parole. C'est juste l'histoire d'un kid qui naît dans un village, puis qui s'en va se promener en ville, puis qui rencontre le monde. La variété des techniques d'animation utilisées, ça m'a jeté à terre. L'autre fois, je l'ai réécouté, puis j'ai encore le cœur gros juste à y penser. C'est un film, c'est... Je vous conseille Boy and the World.
OK.
C'est... les tunes, le mélange des styles, quand il arrive en ville, puis que tout est comme cadré, c'est une heure et demie qui se digère immédiatement. Voilà. Ça fait mon top 3, mon film préféré des 10 dernières années. C'est Blade Runner 2049. Mon deuxième, c'est Boy and the World. Et mon troisième, c'est le film de Peanuts. Ce qui fait que, dans mon top 3, j'ai deux films d'animation. Fait que je me reconnais là-dedans. J'aime ça l'animation.
T'aimes-tu ça l'animation?
J'aime ça l'animation.
Ben écoute, je pense que c'est le temps de dire adieu.
Ben pour moi, pour cette semaine.
Exactement.
On va se repoigner la semaine prochaine.
Exactement. Yes.
Et à la proxima.
Ah ben, on rappelle aux gens d'aller voir du Critique Exquise sur Spotify. On a aussi un podcast sur Magic, vous checkerez ça, ça s'appelle Terrain Basique. On a aussi 70%, c'est quand même pas mal cool comme projet. Sinon, ben...
Trois podcasts pour le prix d'un.
Ben voilà.
C'est-à-dire gratis?
Oui!
On remercie podcast.com pour leur implication dans nos projets.
Yeah.
Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi?
Trop d'affaires.
Voilà. Merci Milan, merci Florence.
Ça me fait grandement plaisir.
Moi je m'appelle Tommy, puis on sait pas ce qui s'en vient dans le futur, mais on vous souhaite de la bonne bobine.
Du futur.
Le futur.
Le futur. Ouais, c'est...